Si j'ai beaucoup bossé en Bretagne, c'est aussi parce que les Bretons sont sympas et qu'ils font appel à moi.
Enquête du patrimoine.
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Rubriken Historbraise. Enquête du patrimoine, le podcast qui parle de celles et ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je suis Marie Mouchou avec Florian Laouen. Nous allons continuer notre première série de podcasts dédiés aux vulgarisateurs, donc tous ceux qui diffusent l'histoire et le patrimoine au grand public. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la manière de diffuser l'histoire à travers des vidéos YouTube sur les réseaux sociaux. Et pour cela, nous avons l'immense honneur d'accueillir Benjamin Brio, alias Nota Bene.
Bonjour.
Bonjour, tu es le fondateur des chaînes YouTube Nota Bene et Nota Bonus qui ont plus de 2 millions d'abonnés réunis. Tu vulgarises l'histoire au travers des vidéos qui cumulent plusieurs milliers de vues et qui font de toi le premier vidéaste français à parler d'histoire. Tu t'es également lancé dans la publication d'ouvrages comme Les Vikings, Les Samouraïs et des BD de vulgarisation qui ont un grand succès en librairie. Pour commencer, est-ce que tu peux rapidement présenter ton parcours ?
Mon parcours, c'est un parcours un petit peu alambiqué. Donc à l'époque, j'ai fait un bac électronique suivi naturellement d'un début de fac d'histoire. C'est la continuité logique qu'on attend. Fac d'histoire dans laquelle je suis pas resté très très longtemps. Je suis resté seulement quelques mois. J'y avais été par curiosité parce que j'aimais bien l'histoire et que j'avais envie un peu d'approfondir tout ça. Ça m'a beaucoup plu, mais la vie fait que j'ai pu rencontrer un réalisateur qui m'a fait découvrir tout le domaine de l'audiovisuel. Et moi qui étais passionné de cinéma depuis que j'étais gamin, j'ai foncé là-dedans. Et donc j'ai troquer les bancs de la fac pour ceux d'un BTS, et donc j'ai fait un BTS audiovisuel, ce qui m'a permis ensuite de travailler dans une société de production pendant près de 6 ans en tant que caméraman, monteur, et finalement d'apprendre ce qu'allait devenir un peu mon métier par la suite avec Nota Bene, c'est-à-dire la vulgarisation, puisque dans ces milieux-là, on travaillait beaucoup sur des domaines documentaires, sur de la documentation des institutions publiques, privées, dans tous les secteurs, ça pouvait être la santé, la chimie, le marketing, la culture, et donc il fallait assez rapidement que j'assimile des discours parfois un petit peu complexes en tant que monteur pour les restituer au grand public. Typiquement, souvent, il y a cet exemple de on va faire une interview de 2 heures d'une chimiste et moi, on me dit Ben, faut que tu en fasses une vidéo de 3 minutes, que le grand public puisse comprendre ce qu'elle nous dit. Là, il y a une capacité à avoir de prendre le discours, de le digérer, de le synthétiser et de le restituer sans le tronquer. Et ça, en fait, sans le savoir, en fait, je faisais déjà de la vulgarisation. Donc, 2014, quand j'ai envie de me lancer sur YouTube à travers ce projet personnel au début, qui va déraper, eh bien, c'est ce que je fais sur l'histoire. J'essaye de renouer avec ce que j'avais commencé sur les bancs de la fac. Comme ça, je me dis que je vais apprendre des trucs, tout en m'amusant, en le partageant avec le public. Et puis, ce projet dérape sérieusement et très positivement, puisque 11 ans plus tard, c'est un gros projet de médiation culturelle avec une entreprise qui regroupe une dizaine de collaborateurs et puis des dizaines aussi d'archéologues, d'historiens qui écrivent pour l'émission.
Super, merci pour cette réponse très complète. Et donc on se demandait concrètement comment ça se passe la réalisation d'un épisode, comment vous choisissez les sujets, quelles recherches vous effectuez et comment vous trouvez les informations en général.
Le choix des sujets, ça peut être des envies personnelles ou des questionnements qui, moi, me taraudent un petit peu. C'est des discussions avec des copains, avec mes enfants, avec ma femme. C'est beaucoup aussi de discussions avec les historiens avec qui je travaille énormément, puisque l'objectif de Nota Bene, c'est de faire de la médiation culturelle, on va dire, sérieuse. Donc, c'est de servir de pont entre l'université et le grand public aussi, entre la recherche et le grand public, de montrer aussi comment est-ce que se produit une science et de faire saisir un petit peu tous ces tenants et ces aboutissants de ça au grand public. Donc, il y a beaucoup de suggestions aussi de ces scientifiques qui travaillent sur diverses thématiques, et ça, je pense que c'est une plus-value aussi de Nota Bene, c'est-à-dire que même si on va parfois traiter de sujets que le public connaît déjà, qui a été traité dans de nombreux médias à travers différentes formes, il y a cette volonté de laisser aussi la parole à ceux qui produisent l'histoire pour avoir des angles édito un petit peu sympas. Et donc, une fois qu'on a défini les sujets qu'on va aborder tout au long des semaines, des mois, des années, parce qu'en général sur YouTube je prévois presque 1 an à l'avance tout le planning éditorial, je fais travailler des historiens dessus, puisque c'est eux qui écrivent le fond, et puis moi je réadapte avec mes équipes les scripts à la sauce Nota Bene, en étant sûr bien sûr qu'on ne travestit pas leurs propos, et puis après il y a tout un travail, toute une équipe qui se met en branle, par exemple au sein de Nota Bene, on a 2 personnes qui sont dédiées à l'iconographie, donc juste à la recherche des images qui vont pouvoir illustrer les propos, et puis Nota Bene ça n'est pas en plus qu'une chaîne YouTube, c'est aussi du podcast, c'est des ouvrages comme vous l'avez mentionné, c'est tous les sujets qu'on peut aborder sur les réseaux sociaux à travers des capsules courtes. Donc tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et donc ça nécessite d'être bien préparé, bien cadré, et donc de travailler de concert avec ces scientifiques.
Merci beaucoup pour cette réponse et tous ces détails sur la préparation des épisodes. Maintenant, donc plus précis, tu as parlé plusieurs fois de la Bretagne dans tes vidéos. Pourquoi avoir choisi finalement cette région? Et est-ce que, selon toi, tes vidéos permettent de valoriser la Bretagne?
De prime abord, comme ça, je n'avais pas conscience d'avoir plus parlé de la Bretagne que d'une autre région. Alors peut-être que ça a été le cas à un moment donné. Peut-être c'est parce que la Bretagne, c'est une terre d'histoire et de légende, comme beaucoup d'autres terres. Mais il faut savoir que les reportages, notamment, qu'on peut faire, si je me déplace à un endroit, c'est parce que j'ai été sollicité. Donc tout simplement, peut-être que si j'ai beaucoup bossé en Bretagne, c'est aussi parce que les Bretons sont sympas et qu'ils font appel à moi. Il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, l'histoire de la Bretagne, c'est sûr, elle est très riche et c'est toujours passionnant de pouvoir l'aborder. Parce qu'en plus, pendant longtemps, jusqu'à la période médiévale, on va dire, il peut y avoir une rivalité avec le royaume de France. Et donc, c'est bien, c'est du pain béni pour moi, en fait, pour mettre un petit peu de profondeur dans cette histoire que l'on apprend souvent et qu'on a l'impression de saisir à travers une France qui serait un bloc qui n'a jamais bougé, en fait. Quand on aborde l'histoire de la Bretagne, on voit que l'histoire de la Bretagne, ça n'est pas l'histoire de France non plus. Il y a des divergences, il y a des propres luttes de pouvoir interne à la Bretagne. Il y a peut-être un affect aussi. C'est rigolo, mais j'ai fait un peu de généalogie, et y compris des tutos de généalogie. Et moi, ça m'a fait rire parce que je suis remonté à un moment donné dans mon arbre généalogique où je suis tombé sur des aristocrates, ce qui est vraiment pas le truc le plus répandu dans mon arbre généalogique. J'en ai trouvé un à un moment donné, et ce qui est chouette, c'est qu'à partir de là, tout s'est débloqué dans l'arbre généalogique, et je suis tombé sur quelqu'un qui avait déjà fait le travail, donc j'ai récupéré son travail, et j'aurais, dans les ancêtres extrêmement lointains, Salomon, roi de Bretagne. Donc voilà, ça me fait marrer de dire ça, même si statistiquement, si on s'intéresse tous un peu à notre généalogie, on a tous des gens un peu célèbres dans nos arbres généalogiques, hein, c'est mathématique. Donc voilà, moi ça m'a fait marrer de tomber sur Salomon, roi de Bretagne.
Comme quoi tout est lié à la Bretagne finalement.
Eh oui, eh oui.
Donc on se demandait aussi, donc plus largement cette fois-ci, est-ce que vous sentez acteur de la valorisation du patrimoine et de l'histoire en général, voilà, en France cette fois-ci?
Oui, en tout cas, moi c'est ce que j'ai envie de faire. Le but de mon émission, donc c'est de mettre en avant évidemment l'histoire et le patrimoine, mais c'est de faire comprendre pourquoi c'est important, en quoi ça peut nous aider aussi parfois de comprendre cette histoire dans la société dans laquelle on vit, puisque comprendre l'histoire, se pencher un petit peu dessus, c'est aussi se poser des questions sur tout ce qui nous entoure, prendre un petit peu de recul critique, renforcer l'humilité, toutes ces questions-là. Et quand on s'intéresse au patrimoine, c'est un petit peu la même chose finalement. Et ce patrimoine, on peut en être fier parce qu'on a un très beau patrimoine en France, comme dans plein d'autres pays, mais on peut comprendre parfois que les gens soient un petit peu d'un coup chauvins comme ça quand ils découvrent un truc à côté de chez eux, qui se disent « Ah, mais en fait, ça a un intérêt, je comprends mieux pourquoi cet édifice, il est là, et à quoi il servait. » Et quand on comprend les choses, d'ailleurs, on a d'autant plus de plaisir à le partager avec des proches ou avec les gens qu'on croise. Donc, ce que j'aime bien dans les reportages qu'on fait pour promouvoir le patrimoine, notamment en Bretagne, hein, c'est de participer à ça, c'est-à-dire que les gens soient un petit peu fiers de ce qui les entoure et de pouvoir transmettre aussi ces connaissances, parce que c'est ludique, ça peut nous servir aussi dans la vie de tous les jours. En tout cas, on voit sur les réseaux sociaux à chaque fois que les gens sont heureux qu'on parle un petit peu de chez eux. Et c'est normal parce que souvent l'attention médiatique sur tous les sujets, hein, je parle pas spécifiquement en histoire, mais se concentre sur les grandes villes et principalement sur Paris. Et je pense que le rôle aussi de l'histoire, c'est de s'évader, c'est de découvrir d'autres choses. Et cette autre chose là, c'est tout le reste de la France quand même. Et puis ça montre que justement il n'y a pas que Paris, même si Paris c'est hyper intéressant, que je travaille aussi dessus. Là les gens se disent ah bah voilà, moi aussi j'existe, moi aussi j'ai du patrimoine près de chez moi. Nous aussi on a une histoire, par exemple quand j'ai bossé à Rennes pendant l'Antiquité. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi très positivement à cet épisode-là parce que c'est des choses dont on ne parle pas souvent et qui sont néanmoins hyper intéressantes.
Merci donc beaucoup pour cette réponse. Maintenant, sur plutôt ton ressenti, est-ce que tu te définis comme un youtubeur, un médiateur, un vulgarisateur, un créateur de contenu ou autre, ou tous à la fois?
Bon, un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire que moi je suis pas très... Je sais que chacun trouve ses appellations, il y en a qui préfèrent certains trucs. Moi c'est vrai que je dis créateur de contenu souvent, mais médiateur ça me va très bien. Pour moi je fais de la médiation en fait, hein. Je fais de la médiation culturelle, mais sur différents supports, et c'est ça qui est important. Et d'ailleurs quand je parle de mon travail, je parle d'abord de mon projet de médiation. C'est comme ça que je le définis, parce que le reste ça peut être un peu réducteur peut-être quand on parle de youtubeur. Évidemment c'est une facilité de langage parce que c'est ce qui s'est répandu dans les médias comme appellation, mais youtubeur ça implique de travailler sur YouTube et pas ailleurs. Or je suis sur plein de plateformes, aujourd'hui on est même à la télé, hein, avec l'équipe, puisqu'on fait du docu pour la télé. Donc oui, créateur de contenu, médiateur, en tout cas cette idée de passeur et de passerelle, c'est quelque chose qui, moi, m'anime beaucoup et qui me motive au quotidien. Ce qui est important pour moi, surtout, c'est de pouvoir montrer que l'histoire, elle est quand même plurielle et accessible. Ça, c'est un discours que je tiens depuis plusieurs années et que je pense que je tiendrai encore. Pendant longtemps, cette histoire, elle a été vue comme une histoire des puissants, une histoire des rois, des reines, une histoire bataille. Je ne crache pas du tout sur ce type d'histoires qui sont hyper intéressantes et qu'il faut continuer à faire. Et d'ailleurs, je le fais sur Nota Bene parce que j'aime ça aussi. Mais l'histoire, c'est bien plus que ça. C'est aussi une histoire politique, sociale, culturelle, économique, scientifique. Et moi, ma volonté depuis plus de 10 ans à travers Nota Bene, c'est de montrer que cette histoire, elle n'est pas élitiste. C'est une histoire qu'on peut partager, c'est une histoire à laquelle on peut s'intéresser, même si de prime abord on se dit l'histoire c'est pas pour moi, même si de prime abord chacun n'a pas une passion dévorante dans la vie, en tout cas il peut avoir des centres d'intérêt, et ces centres d'intérêt là peuvent trouver complètement un écho dans l'histoire. Peu importe ce qu'on aime, on peut trouver un truc dans une émission d'histoire qui se raccroche à nos centres d'intérêt, à nos passions. Moi c'est ça que je trouve absolument formidable dans mon métier, c'est que je peux absolument parler de tout.
Très bien. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « Bah non, pas de médiateur parce qu'on n'a pas fait d'études d'histoire. » Est-ce que toi, ça te paraît essentiel quand même d'avoir des bases dans ce domaine? Quel est ton avis là-dessus?
Moi, je dis que c'est préférable. Je veux dire, à partir du moment où tu abordes un sujet, où tu te lances dans une thématique, c'est quand même mieux d'avoir suivi un cursus, une formation, pour avoir, je dirais, une bonne ligne de conduite, les bons réflexes, la bonne méthodologie pour parler de ce que tu as envie de parler. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Moi-même, je n'ai pas de diplôme d'historien. Bon, la contrepartie, c'est que j'ai dû montrer patte blanche parce que j'avais envie de le faire aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, ma volonté, c'était de me dire très rapidement, quand l'émission a pris beaucoup en audience, je me suis dit, j'ai une responsabilité vis-à-vis du public parce que si je dis n'importe quoi, j'ai la puissance de feu pour être un outil de désinformation monstre. Je n'ai pas envie de ça. Je veux faire du contenu le plus carré possible. Donc, je vais me rapprocher de ceux qui font l'histoire, des scientifiques, des historiens, des archéologues, de tout ce qui se finit en og. Et puis, je vais travailler avec eux et ensemble, on va construire un beau programme. Bon, ça n'empêche absolument pas parfois des petites erreurs, des trucs, voilà, parce qu'on a une telle cadence de production, et puis bah, l'erreur est humaine, ça arrive, et bah tu le fais, tant pis, on te le fait remarquer, t'as fait une erreur, on fait un mea culpa, on fait un erratum, si vraiment il y a quelque chose, on peut même faire une vidéo où on va revenir un petit peu sur les points qui posent problème et essayer de comprendre pourquoi on a fait ces erreurs-là, ce qui là s'inscrit totalement dans une démarche scientifique et qui montre que bah ouais, faire une erreur et la corriger et l'assumer, c'est la bonne attitude à avoir plutôt que de s'entêter. Maintenant, tout le monde n'a pas cette volonté-là non plus, c'est à chacun de placer un petit peu son curseur et puis au public de voir ses exigences aussi en termes de contenu, mais moi, c'est la voie que j'ai choisi de prendre, hein, c'est d'être transparent avec le public et de pouvoir avoir ce recul sur mon propre travail. La chance que j'ai eue aussi, ça a été d'être parmi les premiers à faire ça sur YouTube et donc d'y aller pas à pas. Et si j'avais quelques bases quand même de méthodologie critique, même que j'avais approché très légèrement hein, à la fac d'histoire, c'est pas 6 mois de fac qu'on fait de moi un historien, ça m'a posé quand même quelques petites bases qui m'ont permis d'éviter de tomber dans certains pièges. Mais cette méthodologie, je l'ai acquis au fur et à mesure du temps et aussi en collaborant au fur et à mesure avec des historiens qui ont eu la gentillesse aussi de m'accompagner et puis des fois de me dire « Bon bah là Ben, ton émission elle était pas mal mais tu sais peut-être que ça aurait été plus intéressant de faire comme ci, comme ça, nous dans la méthodologie des historiens on procède comme ci, comme ça ». Moi ça m'a permis de prendre les choses sereinement, d'avancer, de m'améliorer et d'arriver à mener l'émission là où elle est aujourd'hui en termes d'exigences techniques et scientifiques. Voilà, j'ai envie de dire que c'est pas obligé d'être diplômé, c'est toujours préférable, mais derrière en tout cas, quand on publie des choses sur internet, souvent c'est que bah, on a envie de bien faire les choses, donc il faut se donner les moyens de bien faire les choses et donc de bien se renseigner et de pas hésiter à être critique et humble vis-à-vis de sa propre démarche. Voilà.
Très bien, merci beaucoup pour cette réponse et je trouve ça très intéressant justement de pouvoir échanger, notamment lors des lives ou même dans le chat, je remarque souvent que des gens font « Ah, petite précision sur ça », etc. Et je trouve que c'est aussi ça l'histoire et c'est pouvoir échanger et débattre sur différents sujets, donc voilà, c'était mon petit avis personnel. Donc on se demandait aussi au niveau des choix de sujets, est-ce que c'est important aussi pour toi d'être paritaire, c'est-à-dire dans les choix de sujets, avoir autant des sujets qui parlent d'hommes que de femmes? Il y a des vulgarisatrices femmes aussi sur YouTube, mais elles sont assez minoritaires. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il devrait en avoir plus, par exemple?
Oui, bah, de toute façon, ça c'est toujours un sujet alors, moi, qui me tient à cœur et qui est compliqué, parce qu'on est dans une situation aujourd'hui sociétale où je pense que la majorité des gens veulent tendre vers une parité et vers l'égalité des hommes et des femmes. En tout cas, moi, c'est la position que je défends et je ne vais pas être très cassant là-dessus, hein, puisque je pense que la majorité des gens sont d'accord. Néanmoins, on vit toujours dans une société quand même très patriarcale et profondément inégalitaire sur ce rapport homme-femme. Et ça, ça se traduit partout. Et ça se traduit aussi dans la science. Puisque la grosse majorité des travaux qui ont été faits, même en histoire, subissent ces biais-là. Et d'ailleurs, on les subit directement dans les sources, hein, puisque la plupart des sources ont été écrites par des hommes, par exemple, sur lesquels les historiens se reposent. Donc là, déjà, il y a un biais. Ça explique que pendant longtemps, les femmes étaient absentes ou reléguées vraiment au second plan dans les manuels d'histoire. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que puisqu'il y a des nouvelles aspirations sociétales à cette parité, on a des chercheurs qui vont se poser ces questions-là en se disant « Mais les femmes, elles ont toujours été là, en fait. Donc, quel est leur rôle ?» Et donc, on va poser de nouvelles questions à des sources qui ont déjà été analysées une centaine de fois. Et avec ces nouvelles questions, on va pouvoir apporter des nouvelles réponses ou avoir des nouvelles grilles d'analyse qui sont hyper intéressantes et qui vont pouvoir révéler des choses. Ce qui explique que depuis quelques années, on a un boom des articles autour des femmes dans l'histoire, en fait, et de leur rôle à différents échelons de la société. Et moi, je trouve ça formidable. Et souvent, voilà, ça m'amuse quand je vois des gens qui réagissent en disant « Mais attendez, ça, c'est le progressisme qui vient déformer l'histoire. » Non, en fait, c'est la science qui avance, qui se pose des questions, qui trouve des réponses, et l'objectif n'est pas de déformer une réalité. Et souvent, quand on me dit « Oui, mais regardez, là, ça nous mène au fait que dans la série Viking, il y a des bataillons de femmes. » Bon, ok, si on se penche un peu sur la science, c'est ce que disent les historiens, les archéologues, il y a des traces de femmes de pouvoir dans les sociétés scandinaves. En revanche, il n'est pas établi qu'il y avait des bataillons de femmes vikings à l'époque. Pourquoi on les a foutus dans la série Viking ? Parce que c'est une fiction, et que cette fiction très moderne reprend les aspirations sociétales très contemporaines qu'on a tous et les questions qu'on a, et on a envie de donner un rôle prépondérant aux femmes, et moi je trouve ça chouette de voir des femmes qui cassent des bouches avec des haches. Mais pour le coup, voilà, il y a un petit recul historique, et ce qui est intéressant, c'est que cette production de fiction, elle va produire de nouveaux clichés chez des jeunes et des moins jeunes, qui du coup vont regarder ça en disant « Ah ouais, mais dans la série Viking, il y avait des femmes, il y a des femmes qui se battent, donc oui, à l'époque des Vikings, les femmes se battaient bien. » Donc tout ça, en fait, suscite énormément de questionnements, de réflexions qui, pour moi, sont absolument passionnants, et j'aime bien rappeler que, bah non, chez les Vikings, les femmes n'avaient pas forcément ce rôle-là, et qu'on restait dans une société ultra patriarcale, et en fait, moi, je trouve ça bien de le rappeler, parce que ça montre qu'on a un peu évolué depuis, et c'est quand même assez chouette. Mais ce problème de parité est présent dans la science, ça se reflète aussi dans notre société aujourd'hui. Moi, je le vois dans les statistiques de ma chaîne YouTube, on reste encore majoritairement sur des hommes qui suivent la chaîne, entre 70 et 80%, et sur la plupart des chaînes de vulgarisation, tous mes collègues constatent la même chose. Globalement, dans le domaine scientifique, c'est plus la parole des hommes qui prévaut, et d'ailleurs, quand certaines femmes tiennent une chronique de vulgarisation, ils peuvent être attaqués sur les réseaux, sur leur légitimité à en parler, parce qu'elles sont des femmes. Or, le fait qu'elles soient des femmes n'a strictement rien à voir avec leur légitimité à parler de ces sujets-là. Là, on est face à des réactions de gens qui sont réactionnaires et qui défendent un point de vue très passéiste, en fait. Mais ça, j'ai envie de dire que ça reste peut-être une minorité bruyante, en tout cas, je l'espère, qui reflète pas ce que doit être notre futur commun. Donc, je regrette qu'il n'y ait pas plus de femmes vulgarisatrices aujourd'hui, clairement, mais en même temps, je le comprends parce que c'est quelque chose de compliqué. Et j'ai pas mal de copines qui font ce métier-là aussi, qui ont été les premières à essuyer les plâtres, qui s'en sont pris quand même beaucoup dans la tronche ces dernières années parce qu'il faut pouvoir supporter toutes ces critiques qu'on reçoit. Mais le fait qu'elles aient été là, ça a motivé aussi d'autres femmes à se lancer par la suite. Il y en a de plus en plus et je trouve ça vraiment chouette et j'aimerais qu'il y en ait plus. Maintenant, sur les sujets moi-même que j'ai pu traiter sur Nota Bene, j'essaye d'en inclure aussi de plus en plus des figures féminines. Dans les auteurs et autrices qu'on fait travailler sur le fond, il n'y a pas de discrimination négative ou positive genrée sur qui j'embauche pour les scripts, mais je constate qu'il y a quand même pas mal d'historiennes et ça, c'est quand même chouette, j'en suis content. Sur les sujets, on a encore des progrès à faire, clairement. On n'est pas du tout à la parité, mais j'ai envie de dire que ça reflète encore une fois, la production scientifique de l'histoire. On ne manque pas une occasion, dans certains épisodes où on voit que le sujet manque là-dessus, de poser des questions ou d'être clair sur nos biais, en fait, ou nos manquements, en disant, bon, bah, ce sujet, il était chouette. Bon, malheureusement, c'est vrai que pour le volet sur les femmes, c'est compliqué. Et dernièrement, on a fait un truc sur l'histoire des vieux, comment on était vieux, comment on traitait les vieux dans l'Antiquité. Bah, c'est vrai qu'on a parlé des vieux, on n'a pas parlé des vieilles. Parce que là, pour le coup, j'avais personne pour travailler sur ce sujet-là. Peut-être que ça arrivera un jour, et je l'espère. Mais en tout cas, faut aussi être conscient de nos propres biais. biais. Hein. Et moi, je sais qu'en 2019, ça faisait déjà 5 ans que j'avais lancé ma chaîne YouTube. Je lance ma première BD, c'était une galerie d'une dizaine de portraits. Et puis, je sélectionne la dizaine de portraits, j'envoie ça à mon éditeur. Et puis, en lui envoyant, en même temps que je clique sur envoyer, je me rends compte, je me dis, bah merde, en fait, j'ai sélectionné que des mecs. Je renvoie un mail et je lui dis, écoute, attends 2 secondes avant de valider ça. Je te renvoie une liste avec des nanas aussi, quoi, parce que c'est important qu'on ait aussi des femmes. Je lui dis, je vais refouiller mes scripts Nota Bene, et puis je te dis. Et en fait, j'ai pris 50 scripts Nota Bene, et là, je me suis rendu compte avec horreur que, en fait, je parlais pas des femmes, quoi. Je parlais pas des femmes alors que moi j'étais sensibilisé quand même à ça, et j'étais sensibilisé aux inégalités de genre, que j'étais vraiment informé en fait sur tous ces sujets de soucis de parité. Et là je me suis dit, mais si moi qui suis sensible à ces sujets-là, j'ai pas vu ça devant mes yeux, il y a un problème. Bon, et du coup j'ai corrigé les choses, j'ai lancé des scripts sur les figures féminines, et depuis j'essaye de faire attention, même si on n'est pas parfait, mais il faut être conscient de ses propres biais-là aussi. On est les héritiers d'une éducation, cette éducation collectivement, elle évolue de manière progressive, et il faut un peu de temps, et j'espère qu'on va tous dans le bon sens.
J'espère aussi que les choses vont changer dans le bon sens, et c'est important de mettre aussi les femmes en lumière, même si elles sont un peu oubliées dans l'histoire.
Donc, comme dernière question, le mot de la fin, est-ce que la vulgarisation est un bon moyen pour donner envie de travailler dans les métiers liés à l'histoire ou encore au patrimoine ?
Moi, je pense que la vulgarisation peut être un bon moyen pour intéresser les gens et leur donner envie de travailler là-dedans. En fait, pour moi, c'est sans doute une de mes plus grandes fiertés, c'est-à-dire que ça c'est un peu le goal, quoi. Quand je reçois un petit message sur Instagram de quelqu'un qui me dit Ah Ben, je t'ai découvert quand j'avais 11 ou 12 ans, et puis maintenant je suis à la fac et je suis en master. Bon, déjà, ça me donne un petit coup de vieux. Mais ensuite, moi, je me dis, merde, j'ai participé. Alors, peut-être que la personne, c'est pas entièrement ce qui l'a motivé, hein, je me doute bien de ça, mais je me dis, si à notre échelle, on a pu participer à éveiller cette curiosité-là et à transformer l'essai jusqu'à ce que la personne embrasse une carrière scientifique, c'est cool, quoi. Moi, je suis heureux. Alors après, je suis aussi heureux quand une personne juste peut s'évader quelques minutes de son quotidien, voilà, qui se dit, bon, bah là, la journée a été difficile, je vais me mater un petit épisode Nota Bene, et puis ça va me, voilà, changer les idées. Rien que ça, déjà, moi, je suis content. Pour moi, la mission, elle est remplie. Mais c'est sûr que le goal ultime, c'est d'arriver à susciter des carrières. Donc, c'est pas non plus pour chaque personne qui regarde Nota Bene, c'est déjà arrivé. En tout cas, on le sait, parce qu'on a reçu des messages, et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Moi, dans tous les cas, je pense que c'est important de pouvoir stimuler un peu la curiosité de tout le monde, de proposer des contenus qui soient intelligents, simples, mais pas simplistes. Et ça, je le dis souvent, mais il y a ce dédain parfois que peuvent avoir certaines personnes, se disant « oui, mais les gens, ils vont pas aimer les émissions longues, trop techniques, trop… » voilà. Mais en fait, les gens sont pas cons, en fait. Et puis, ils consomment ce qu'ils veulent au moment où ils le veulent. C'est pour ça que sur Nota Bene, on a des vidéos TikTok qui durent 2 minutes, qui sont faciles à consommer et qui demandent pas beaucoup d'énergie. Et puis à côté de ça, on a des entretiens qui durent 2 heures, où on va rentrer dans le vif du sujet avec des historiens, des archéologues. Moi, suivant la période dans laquelle je me trouve, suivant l'horaire de la journée, suivant le contexte dans lequel j'écoute une émission, j'ai parfois envie juste de consommer du TikTok, et parfois j'ai envie de me consommer un bon podcast de 2 heures. Donc je pense que les gens sont curieux de nature, et avoir une belle offre de vulgarisation, ce qui est le cas dans le milieu francophone sur les réseaux sociaux, parce qu'on a la chance d'avoir un bel écosystème autour de l'histoire, mais pas que, autour des sciences en général. Je trouve ça chouette. C'est une vraie chance, et quand je vois le nombre de gens qui se lancent aujourd'hui, même en amateur, dans cette vulgarisation, bah ça fait chaud au cœur. Et sachez que vous aussi, en Bretagne, vous avez des créateurs de contenu spécialisés sur la Bretagne qui font du très bon boulot.
Oui, oui, on a notamment interrogé un influenceur qui fait des petites vidéos sur Instagram et qui met en avant quelques bâtiments rennais notamment. Donc voilà, on essaie de donner la parole aux gros influenceurs et médiateurs, et aux plus petits aussi, pour que tout le monde se retrouve. Voilà. Et juste un petit mot, je pense qu'il y a vraiment eu une génération Stéphane Bern et une génération peut-être Nota Bene dans les personnes qui consomment de YouTube et des choses liées à l'histoire.
Ah, merci, merci.
Merci beaucoup Benjamin d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Grâce à toi, on a pu mieux comprendre ce qui se cache derrière Nota Bene et derrière ta chaîne YouTube. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Benjamin.
Merci pour l'invite.
L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.